Chapitre 4. Nicky se précipita dans la chambre de ses grands-parents dès que les essaims de Luciole illuminèrent la cité d'Émeraude.
Il fait jour, mamie. Ils vont venir nous chercher.
Nicole étreignit sa petite fille. Nous avons 2 heures devant nous, Nicky. Papy dort. Va jouer dans ta chambre pendant que nous prenons une douche. Richard attendit le départ de la fillette déçue pour s'asseoir et se frotter les yeux. Elle ne parle que de cela depuis une semaine et passe tout son temps à regarder le tableau, lui dit Nicole. Avec les jumeaux, ils ont donné un nom à toutes les créatures qui y sont représentées. Elle prit une brosse et démêla machinalement ses cheveux. Pourquoi les petits-enfants n'ont-ils aucune notion du temps ? Elle m'a demandé tous les matins si c'était le grand jour.
Elle est surexcitée, fit Richard en se levant. Comme nous tous d'ailleurs. J'espère que nous ne serons pas déçus.
Comment ça? Le docteur Bleu dit que nous verrons des choses encore plus fantastiques qu'à notre arrivée.
Je présume qu'ils ont donné quartier libre à toute la ménagerie. Au fait, sais-tu ce qu'ils célèbrent?
Ils parlent d'une fête de l'abondance, d'un hommage rendu à la qualité de leur vie.
Crois-tu que les Octos nous ont invités parce que tu as rapporté au docteur Bleu notre conversation avec Max et Patrick? Demanda Richard sur le seuil de la douche.
Quand ils ont déclaré qu'ils regrettaient le Nouvel Éden?
Il hocha la tête.
Oui, je pense que nos hôtes souhaitent faciliter notre intégration au sein de leur société.
J'aimerais avoir achevé tous les interprètes. Je n'ai pour l'instant que 2 exemplaires et je n'ai pas terminé de les tester. Dois-je en confier un à Max?
Ce serait une excellente idée,
dit-elle en le rejoignant.
Que veux-tu faire?
Prendre ma douche avec toi, si ça ne te gêne pas trop, naturellement.
Jamie vint leur annoncer qu'un véhicule les attendait. C'était le plus jeune de leurs 3 voisins octopodes et ils ne le voyaient que rarement. Archie et le docteur Bleu disaient qu'il était absorbé par ses études et approchait d'un tournant capital de sa vie. Après s'être demandé quelle tenue serait de circonstance, les humains avaient conclu que c'était sans importance. Eux seuls portaient des vêtements dans la cité d'Émeraude, ce qui avait d'ailleurs suscité de nombreux commentaires de la part de leurs hôtes. Mais quand Richard leur avait suggéré de vivre nus, eux aussi, tous s'y étaient opposés.
« Je serais trop gêné », avait déclaré Éponine.
Le groupe disparate des 11 humains et 4 octopodes se dirigea vers le rond-point. Éponine fermait la marche, une main sur son ventre. Les femmes avaient malgré tout mis leurs plus beaux atours, mais les hommes et les enfants, à l'exception de Max qui avait enfilé la chemisette hawaïenne qu'il réservait pour les grandes occasions, étaient en t-shirt et en jean. Au moins, leur tenue était-elle impeccable depuis qu'Archie leur avait apporté des drômes, des insectes qui se chargeaient de nettoyer leurs effets. Ils montèrent à bord du véhicule qui s'arrêta à la limite de leur secteur. 2 octopodes qu'ils ne connaissaient pas vinrent les rejoindre. Richard mit à profit la conversation qui débuta entre le docteur Bleu et les nouveaux venus pour tester son interprète. Ali regardait tour à tour l'écran et les extraterrestres afin de s'assurer de la fidélité de la version fournie. Elle était dans l'ensemble acceptable, mais la rapidité laissait à désirer. Le temps de traiter les données, 2 nouvelles répliques avaient été échangées et Richard devait constamment initialiser l'appareil. Et il ne pouvait suivre une conversation ou manquer 2 phrases sur 3. Ils sortirent de leur secteur et furent fascinés par ce qu'ils voyaient. Nicky ouvrait de grands yeux. Benji et les jumeaux identifiaient en criant la plupart des animaux représentés sur le tableau. Les larges rues étaient animées. Il y avait non seulement de nombreux véhicules qui se déplaçaient sur des rails, mais aussi des piétons de toute espèce et dimension, des êtres juchés sur des monocycles et des bicyclettes,
et même quelques groupes installés sur des autruchosaures. Max, qui n'était jamais sorti du secteur humain depuis son arrivée, ponctuait ses commentaires de jurons qu'Éponine lui avait demandé de bannir de son vocabulaire avant la naissance de leur fils. Il s'inquiéta pour sa femme quand l'autobus s'arrêta afin d'embarquer des passagers. Quatre des nouveaux arrivants allèrent aussitôt examiner le siège installé dans la voiture à l'attention d'Éponine. Max resta près de son épouse pour assurer sa protection. Ils étaient désormais en compagnie de ce que les enfants appelaient des crabes rayés, des créatures rouges et jaunes à huit pattes de la taille de Nicky, au corps rond chitineux armé de pinces d'aspect redoutable. Ces crustacés glissèrent aussitôt leurs antennes sous la jupe d'Éponine. Il n'était que curieux, mais elle recula de frayeur. D'un tentacule, Archie les repoussa avec douceur. L'un d'eux se dressa sur ses pattes postérieures pour faire claquer ses pinces et vibrer ses antennes. Sans doute proférait-il des menaces, car Archie referma sur lui deux tentacules et le déposa sur la chaussée. La bonne humeur des humains s'était envolée. Pendant que l'octopode fournissait des explications qu'Ali se chargeait de traduire, car Max était trop ébranlé pour utiliser l'interprète électronique, les jumeaux se serrèrent contre Nai et Nicky alla se réfugier dans les bras de sa grand-mère.
« Ces êtres ne brillent pas par leur intelligence, » dit Archie. « Leurs tendances agressives sont tenaces. Celui que j'ai dû expulser a des antécédents. Son optimiseur l'a marqué. Les deux points verts à l'arrière de la carapace et cette nouvelle entorse à l'ordre établi lui vaudra sans doute d'être éliminé. »
Les humains regardèrent de toutes parts pour s'assurer qu'aucun des autres passagers n'avait de points verts sur le dos. Rassurés, ils se détendirent un peu. « Qu'a-t-il dit ?» voulut savoir Richard.
« Rien d'intéressant. Une phrase toute faite, typique des êtres à l'intellect peu développé. »
Le véhicule de transport en commun suivit l'avenue pendant encore 8 ou 10 niées. Il s'arrêta à 2 haltes pour prendre d'autres passagers, dont une demi-douzaine d'octopodes et une 20aine de créatures représentant 5 espèces différentes. 4 des choses bleu roi à la tête hémisphérique contenant un cerveau ondulant s'accroupirent en face de Richard et de Nicky qu'il tenait dans ses bras. Elles étirèrent leurs antennes bulbeuses vers les pieds de la fillette et les entrelacèrent, comme pour communiquer entre elles. L'enfant déplaça légèrement ses jambes et elles rétractèrent rapidement leurs appendices à l'intérieur de leur corps. La cabine était désormais bondée. Un animal que les humains n'avaient encore jamais vu et que Max qualifierait plus tard de saucisse à pattes, se dressa contre une des barres verticales et saisit le petit sac à main de Nai. Jamie intervint avant un nouvel incident, mais Galilée donna un coup de pied à la créature qui alla se réfugier en glapissant à l'autre bout du véhicule sans détacher son œil unique de l'enfant qui tentait de se justifier en affirmant que la saucisse avait voulu voler le sac de sa mère.
« Sois sage, mon garçon !»
lui dit Max, en ébouriffant ses cheveux.
« Sinon les octos te tatoueront 2 points verts sur les fesses !»
Des bâtiments d'un ou deux étages, égayés par des motifs géométriques aux couleurs vives, bordaient l'avenue. Des guirlandes de fleurs et de feuilles festonnaient les portes et les toits. Sur un long mur, il longeait l'hôpital, précisa Hercule. Une fresque de 4 mètres sur 20 représentait des médecins octopodes soignant des malades de toutes les espèces vivant dans la cité d'Émeraude. L'autobus ralentit pour gravir la rampe d'accès à un pont long de plusieurs centaines de mètres qui enjambait un canal où ils virent des bateaux, des octopodes qui barbotaient et des créatures marines inconnues. Archie expliqua qu'ils atteignaient le cœur de la cité, le lieu où se déroulaient les cérémonies importantes et où vivaient et travaillaient les grands optimiseurs.
« Vous pouvez voir là-bas notre bibliothèque, »
dit-il
en tendant le tentacule vers un imposant bâtiment octogonal. Richard l'interrogea, et il répondit que cette douve isolait le centre administratif.
Hormis pour les grandes occasions, comme aujourd'hui, ou pour des raisons approuvées par les optimiseurs, seuls les octopodes ont accès à ce secteur.
Le véhicule s'arrêta sur une vaste place, devant une structure ovale qui ressemblait à un stade. Lorsqu'ils furent descendus, Nai confia à Patrick qu'elle n'avait autant souffert de claustrophobie que le jour où elle avait pris le métro de Kyoto en pleine heure de pointe.
Au Japon, tu étais comprimé par d'autres humains,
fit remarquer Patrick en frissonnant. Ils se dirigeaient vers la grande construction au sein d'un bestiaire inimaginable, escortés par leurs amis octopodes et leurs deux congénères qui avaient embarqué à la sortie de leur secteur. Éponine se sentait défaillir et Archie faisait une halte tous les 50 mètres. Ils franchirent une des portes et furent guidés vers la section qui leur avait été attribuée. Il n'y avait qu'un siège pour Éponine. De tous les spectateurs, elle seule avait droit à une place assise. Max et Patrick empruntèrent les jumelles de Richard et virent dans les gradins de nombreux êtres appuyés ou accrochés à des barres verticales. Mais aucun n'avait à sa disposition de quoi s'installer plus confortablement. Benji s'intéressait aux petits sacs de toile qu'Archie et ses semblables portaient en bandoulière, car c'était la première fois que les humains voyaient des octos munis d'un accessoire. Intrigué, il avait interrogé leur ami à ce sujet dès leur descente du véhicule. La réponse avait été évasive, et il répéta sa question. Les explications d'Archie manquaient toujours de précision, ce qui surprit Nicole.
Il dit qu'il pourrait en avoir besoin pour nous protéger.
Benji souhaitait obtenir des éclaircissements, mais Archie s'était éloigné pour converser avec un octopode de la section voisine. Ils étaient séparés des représentants des autres espèces par des câbles métalliques tendus entre des barres verticales. Leur garde du corps, ou leur gardien selon Max, s'était posté autour de leur enclave. Ils avaient sur leur droite des centaines de créatures à 6 bras flexibles, les fourmis qui avaient assemblé l'escalier sous le dôme arc-en-ciel. Sur leur gauche et en contrebas, ils voyaient un millier d'iguanes bruns trapus aux dents saillantes gros comme des chats. La ségrégation raciale était de règle à l'intérieur du stade. Plus étonnant encore, les seuls octopodes présents dans les gradins étaient des gardiens. Tous les autres, 15 000 selon l'estimation de Richard, se trouvaient au niveau inférieur.
Pour d'excellentes raisons,
affirma Archie.
Tout d'abord, le discours du maître optimiseur sera diffusé simultanément en 30 ou 40 langues. Vous remarquerez que chaque section est dotée de ce que Richard appellerait un haut-parleur. Mes semblables et les divers morphes n'en ont nul besoin. Voilà pourquoi ils sont regroupés ailleurs. Prenez les crabes rayés, par exemple,
ajouta-t-il en tendant un tentacule.
Voyez-vous ces tiges verticales à l'avant de leur enclave? Quand le maître optimiseur commencera son discours, elles vibreront pour reproduire ses propos comme s'il s'agissait de 2 de leurs antennes.
Loin en contrebas, une immense banne colorée avait été tendue au-dessus du terrain.
« Peux-tu lire l'inscription ?»
demanda Ali à son père.
« Quoi ?»«
Un message est écrit sur cette grande toile. Que disent les couleurs ?»«
D'accord. »
L'abondance, c'est la nourriture, l'eau, l'énergie, l'information, l'équilibre et la...
Quel est le dernier mot?
Je le traduirai par diversité.
Quelle acception faut-il lui donner?
Sans qui, Éponine?
Je pense que nous serons bientôt fixés.
Quelques minutes après qu'Archie eut dit aux humains que ces regroupements avaient également pour but de permettre le recensement des habitants de la cité d'Émeraude, 2 créatures noires gigantesques partirent du centre du stade et s'éloignèrent l'une de l'autre
en enroulant la banne sur d'énormes rouleaux. Au même instant, un essaim de lucioles descendit des hauteurs du dôme pour illuminer des monceaux de fruits, de légumes et de céréales entassés sur le pourtour d'un terrain divisé en deux. D'un côté, des êtres divers marchaient sur une piste circulaire, reliés les uns aux autres par une grosse corde. Du côté opposé, les représentants de 30 ou 40 espèces, également attachés entre eux, nageaient en cercle dans un bassin. Au centre du stade se dressait une estrade sur laquelle il n'y avait que quelques cubes noirs. On y accédait par des plans inclinés montant des secteurs adjacents. 4 octopodes sortirent de la piscine et gravirent la rampe la plus proche. 4 de leurs congénères quittèrent le groupe de marcheurs et allèrent les rejoindre. L'un d'eux se jucha sur un cube et débuta un discours haut en couleur.
« Nous voici réunis !»
La voix qui jaillit du haut-parleur fit sursauter les humains et effraya Nikki, qui éclata en sanglots. Comprendre le sens de ces paroles s'avérait problématique. Leur prononciation était étrange et privée d'intonation. Sidéré, Richard fourra son interprète dans sa poche et se pencha pour étudier le dispositif qui diffusait ses sons. Ali lui emprunta ses jumelles pour mieux voir le discours. Elle devait deviner les mots situés hors du spectre visible par les humains, mais c'était pour elle plus facile que de chercher un sens à ces paroles indistinctes. Ils s'accoutumèrent finalement au rythme et purent comprendre l'essentiel. Le maître optimiseur déclarait que tout était parfait dans leur royaume d'abondance, que la réussite de leur société complexe et diversifiée se reflétait dans la variété de la nourriture exposée dans le stade.
Rien de tout ceci n'aurait pu être obtenu sans une coopération multiraciale constructive.
Puis il félicita les espèces qui s'étaient distinguées. La production de miel avait dû être exceptionnelle, car une douzaine de lucioles illuminèrent un instant la section des scarabées chargée de sa récolte. Après 3 fengs de discours, les humains cessèrent d'écouter. Ils furent en conséquence surpris quand les projecteurs vivants vinrent s'immobiliser à l'aplomb de leur tête et que le maître optimiseur les présenta aux foules extraterrestres. Des milliers d'yeux se rivèrent sur eux pendant un demi-niais.
« Qu'a-t-il dit sur nous ?»
demanda Max à Ali, qui avait continué de lire les couleurs.
« Simplement que nous venons d'arriver et qu'il s'informe encore sur nos capacités. Il y a eu ensuite des nombres, sans doute destinés à nous décrire, mais j'avoue que leur sens m'a échappé. »
Après avoir brièvement attiré l'attention sur 2 autres espèces, le maître optimiseur entreprit de résumer les points essentiels de son discours.
« Maman ! Maman ! »
Le hurlement de terreur de Nikki avait couvert la voix de l'extraterrestre. Pendant que les adultes s'intéressaient au spectacle, la fillette avait franchi la barrière de leur enclave et s'était approchée des iguanes. Hercule, qui surveillait ce côté, n'avait apparemment pas remarqué qu'un de ces êtres tendait la tête entre les 2 câbles délimitant sa section pour happer la robe de l'enfant. La surprise et la frayeur les paralysèrent tous, Benji excepté. Il réagit aussitôt, enjamba les filins et se précipita au secours de Nikki. Il abattit son poing sur le crâne du reptile. Ce dernier lâcha prise et ce fut le chaos. Nikki revint en courant se réfugier dans les bras de sa mère, mais avant qu'Hercule et Archie n'aient pu atteindre Benji, l'iguane en colère avait sauté sur son dos. Il hurla en sentant les dents de la créature se planter dans son épaule, et il se débattit pour tenter de s'en débarrasser. Peu après, l'iguane tombait sur le sol, inconscient. Il avait 2 taches vertes au point de jonction entre sa queue et le reste de son corps. L'incident était clos. Le maître optimiseur n'avait pas interrompu son discours. Seuls les spectateurs des sections voisines avaient remarqué quelque chose. Mais Nikki était terrifiée, Benji blessé et Éponine avait des contractions. Les reptiles en colère se pressaient contre les câbles, sans faire cas des menaces des octopodes qui s'interposaient. Archie leur demanda de partir, et ils ne se le firent pas dire deux fois. Escortés par leurs gardes du corps, ils sortirent rapidement du stade. Ali portait sa fille qui sanglotait, et Nicole, qui s'était heureusement munie de sa trousse de premier secours, frictionnait vigoureusement la morsure de Benji avec un produit antiseptique. Nicole entra dans la chambre et Richard se redressa sur un coude pour lui demander « Ça va aller ?»«
Je crois »,
fit-elle en soupirant.
« Je crains qu'il ne soit allergique à des composants de la salive de cette iguane, mais le docteur Bleu m'a affirmé qu'ils ne sont pas venimeux. »
« Souffre-t-il toujours autant ?»«
Il refuse de se plaindre. Il est fier de ce qu'il a fait, à juste titre d'ailleurs, et il tient à soigner son image de héros. »«
Et Éponine, a-t-elle des contractions ?»«
Non, elles se sont interrompues. Et si elle accouche demain, Marius ne sera pas le premier bébé dont la naissance est avancée par un excès d'adrénaline. »
La plus perturbée est Ali. Elle se reproche d'être une mauvaise mère. Elle dit qu'elle ne se pardonnera jamais de ne pas avoir surveillé sa fille. J'ai cru entendre Max quand elle s'est demandé si nous ne devrions pas regagner le Nouvel Éden et courir notre chance auprès de Nakamura.
« Pour les enfants !»
a-t-elle ajouté. Nicole se glissa dans le lit, embrassa son mari et croisa les mains derrière sa nuque.
« Richard, crois-tu que les octopodes nous autoriseraient à retourner là-bas ?»«
Non, » fit-il après un instant de réflexion. « Pas la totalité d'entre nous, en tout cas. » »«
C'est bien ce que je craignais. Mais ne le dis pas à nos compagnons. Je devrais peut-être en parler à Archie. » »«
Il éludera la question comme la fois précédente. » Ils restèrent allongés plusieurs minutes, se tenant par la main.
« À quoi penses-tu, mon chéri ?»
demanda-t-elle, en remarquant qu'il gardait les yeux ouverts.
« À tout ce qui s'est passé aujourd'hui. À présent que je me fais vieux et que ma mémoire commence à flancher, je dois veiller à l'entretenir. » Elle rit.
« Tu es incorrigible, »
dit-elle.
« Mais ça ne m'empêche pas de t'aimer. »